Lucien de Samosate, Prométhée ou le Caucase? Mercure, Vulcain, Prométhée. Mercure. Vulcain, voici le Caucase, où il faut clouer ce malheureux titan. Cherchons donc autour de nous quelques rochers commodes qui soient privés de neige, afin que les chênes y entrent plus solidement et que celui-ci soit en vue de tout le monde bien cloué. Vulcain, cherchons Mercure. Il ne faut pas en effet l'enchaîner dans un lieu bas et voisin de la terre, de peur que les hommes qui l'a fabriqué ne viennent l'y délivrer. Et cependant, il ne faut pas qu'il soit trop haut, parce qu'on ne le verrait plus. Mais, si tu veux bien, attachons-le à une hauteur moyenne, ici, au-dessus de ce précipice, les mains étendues l'une sur ce rocher, l'autre sur celui qui est en face. Mercure, tu as raison, ces roches sont escarpées, inaccessibles et pendantes de tous côtés. Ce précipice n'offre qu'une place étroite où l'on puisse poser le pied à peine, peut-on s'y tenir sur la pointe. Nous ne saurions trouver mieux. Allons, Prométhée, pas de retard, monte ici et laisse-toi de bonne grâce clouer à cette montagne. Prométhée, ô Vulcain, ô Mercure, prenez pitié d'un malheureux qui n'a pas mérité son malheur. Mercure, voilà un prenez pitié que tu nous dis sans doute, Prométhée, pour que nous soyons attachés à ta place. Si nous n'obéissons pas aux ordres que nous avons reçus, ne te semble pas assez grand pour qu'on y enchaîne encore de malheureux? Voyons, étends ta main droite, toi, Vulcain, attache, cloue et frappe vigoureusement de ton marteau. Maintenant, donne l'autre main, qu'on attache aussi solidement. Voilà qui est fait. Bientôt va descendre l'aigle qui doit te ronger le foie, et tu seras payé de tes belles et ingénieuses découvertes. Prométhée, ô Saturne, ô Japet, et toi, Terre, qui m'as donné le jour, quels maux ont fait souffrir un infortuné qui n'a commis aucun mal? Mercure, aucun mal, Prométhée, chargé jadis de faire la distribution des viandes, n'as-tu pas poussé l'injustice et la fourberie au point de te réserver les meilleurs morceaux et de ne servir à Jupiter que des os? Recouvert d'une graisse blanche, je me rappelle bien, par Jupiter, les vers où Hésiode dit cela. Ensuite, n'as-tu pas fait les hommes, animaux des plus malfaisants, et, chose pire encore, les femmes. En outre, n'as-tu pas dérobé l'apanage le plus précieux des immortels, le feu, pour le donner aux hommes? Après de tels méfaits, tu nies que tu n'as commis aucun mal, Prométhée. Tu as bien l'air, Mercure, de vouloir, comme dit le poète, inculper un innocent. Tu me reproches des choses pour lesquelles je méritais, à mon avis, si l'on me rendait justice, d'être nourri au prix raté. Si tu avais le temps de m'entendre, je me justifierais volontiers auprès de toi de toutes ces accusations, et je prouverais les torts de Jupiter envers moi. Mais toi, qui es un peu babillard et chicaneur, plaide pour lui et démontre qu'il a porté un jugement équitable en me faisant clouer près des portes du Caucase, sur le Caucase, triste spectacle pour tous les sites. Mercure, l'appel est un peu tardif, Prométhée, et le plaidoyer m'utile. Parle cependant, aussi faut-il que je demeure ici jusqu'à l'arrivée de l'aigle qui doit prendre soin de ton foie. et je consens à passer le temps qui va s'écouler d'ici là à entendre des déclamations sophistiques d'un parleur habile comme toi. Prométhée, parle le premier, Mercure, et pour donner à ton accusation la plus grande véhémence, ne néglige rien de ce qui peut justifier ton père. Toi, Vulcain, je te prends pour arbitre. Vulcain, par Jupiter, je serai ton accusateur plutôt que ton arbitre, car tu m'as volé mon feu et m'as laissé refroidir ma forge. Prométhée, eh bien, partagez-vous l'accusation. Toi, Vulcain, accuse-moi de larcin. Mercure me citera pour avoir fabriqué les hommes et distribué les viandes. De tous deux, vous paraissez bons partisans de parole et versés dans l'art de la rhétorique. Vulcain, Mercure parlera pour moi. Je ne suis pas au fait du langage de la chicane. Je ne m'occupe guère que de ma forge. Mais nous avons là un bon orateur et des mieux ferrés à ces sortes de causes. Prométhée, je ne me serais jamais figuré que Mercure se chargea d'accuser quelqu'un de larcin, ni qu'il voulût me reprocher d'avoir volé, étant aussi du métier. Cependant, fils de la Hédat, puisque tu tentes l'aventure, il est temps d'arriver à l'accusation. Mercure, elle exigerait de longs discours, Prométhée, car il faudrait une certaine préparation pour énumérer tous les délits, et il ne suffirait pas de faire un exposé sommaire de tes méfaits, de dire comment, le soin de distribuer les viandes t'ayant été dévolu, tu as gardé pour toi les meilleurs morceaux, trompé ton souverain, fabriqué des hommes, œuvre parfaitement inutile, dérobé le feu à d'autres dieux, pour en faire présent à tes créatures. Et il me semble, mon cher, qu'après tant de crimes, tu ne comprends pas l'excessive clémence dont Jupiter use envers toi. Si donc tu niais ses actions, il me serait nécessaire, afin de te convaincre, de développer mon plaidoyer et de faire effort pour mettre la vérité dans tout son jour. Mais si tu avoues avoir fait cette distribution des viandes, fabriqué des hommes par une invention nouvelle et dérobé le feu, l'accusation est finie, je n'ai plus rien à dire et le reste n'est plus que sornette. Prométhée, c'est tout ce que tu viens de dire qui n'est que sornette. Et nous le verrons bientôt. Pour moi, puisque tu dis que l'accusation est suffisante, je vais essayer, autant que possible, de me laver de tous ces crimes. Et d'abord, écoute-moi au sujet des viandes. En vérité, j'en atteste le ciel, et je rougis de le dire, c'est une grande honte à Jupiter d'avoir l'esprit si étroit et si jaloux que, pour avoir trouvé un petit os, dans sa portion, il envoie clouer ainsi un dieu ancien sans se rappeler l'aide que je lui ai donnée, sans réfléchir au motif de sa colère, se fâchant comme un enfant et entrant en courroux parce qu'il n'a pas la plus grosse part. Parce qu'il n'a pas la plus grosse part. Ces ruses de table! Il ne faut pas, je crois, Mercure, les garder dans son souvenir. Et si quelqu'un a commis une faute légère dans un banquet, on doit la considérer comme une vétille et, en sortant du repas, y laisser sa colère, mais mettre sa haine en réserve pour le lendemain, nourrir sa rancune et entretenir la mémoire de ce qui s'est fait la veille. Fi donc, cela est indigne d'un dieu et d'un roi. Si en effet on bannit des festins ces sortes d'amusements, les tours, les plaisanteries, les railleries et les rires, il n'en demeura plus que l'ivresse, la satiété et le silence, compagnie triste et maussade et dont une table n'a que faire. Ainsi, j'étais loin de croire que le souvenir de Jupiter irait jusqu'au lendemain, encore moins qu'il se fâcherait ainsi et se tiendrait pour gravement offensé, parce qu'en faisant le partage des viandes, on s'est amusé à éprouver s'il distinguerait et prendrait le meilleur morceau. Mais supposez même, Mercure, ce qui est bien plus grave, que non seulement j'ai donné à Jupiter la plus petite part, mais que j'ai enlevé la part tout entière. Quoi donc? Fallait-il pour cela, comme on dit, confondre le ciel et la terre, songer à des chaînes, à des croix au Caucase, et faire descendre des aigles pour me ronger le foie? Voici, tout ce fracas n'accuse point celui qui se fâche de petitesse, de bassesse dans les sentiments, de penchant à la colère. Qu'eût-il donc fait s'il eût perdu un bœuf tout entier, puisque pour un peu de viande, il entre dans un tel courroux? Que les hommes, en pareil cas, se conduisent avec bien plus d'équité, eux qui, cependant, devraient être plus susceptibles que les dieux. Toutefois, il n'y en a pas un seul qui condamna son cuisinier à être pendu pour avoir, en faisant cuire les viandes, trempé son doigt dans la sauce et l'avoir léché, ou avoir arraché quelques lardons à un rôti et les avoir avalés. Non, ce sont des torts qu'on excuse, ou si le maître s'emporte, il donne quelques coups de poing, quelques soufflets sur la joue. Mais personne n'a jamais été attaché à la potence pour un semblable délit. En voilà assez de dit sur les viandes, et j'ai honte à me défendre à ce sujet, mais il est encore plus honteux pour Jupiter de m'accuser. Passons à mon talent plastique et à la fabrication d'hommes, c'est le moment d'en parler. Sur ce point Mercure, l'accusation se divise en deux chefs, et je ne sais trop lequel vous me reprochez le plus. En premier lieu, de ce que j'ai fait des hommes, tandis qu'il aurait mieux valu qu'il n'y en eût pas, ou tout du moins qu'ils demeurassent tranquilles, terrés, immobiles et inertes. Et en second lieu, de ce que, les ayant faits, je ne leur ai pas donné une autre forme que celle qu'ils ont aujourd'hui. Je vais toutefois parler sur ces deux points, et d'abord je m'efforcerai de démontrer que les dieux n'ont éprouvé aucun dommage de ce que les hommes, que c'est même pour eux un avantage réel et beaucoup plus considérable que si la terre fût restée déserte et privée d'habitants. Dans l'origine, car il me sera plus facile, en remontant jusque-là, de prouver si j'ai fait une innovation criminelle en fabriquant des hommes, dans l'origine, dis-je, il n'y avait qu'une seule espèce divine et céleste de la terre, inculte et difforme, était tout entière couverte de forêts, hérissée de bois, impénétrable au soleil. Ainsi, point d'autel pour les dieux, point de temple. Où les aurait-on placés? Point de statue, ni d'image, rien enfin de semblable à ce qui se pratique aujourd'hui avec tant de soin et de déférence. Moi, toujours le premier à songer à l'intérêt commun, toujours attentif aux moyens d'augmenter la gloire des dieux, de contribuer à leur splendeur, à leur magnificence, je regardais comme une invention excellente de prendre un peu de boue, d'en façonner certains êtres, et de leur donner une forme semblable à la nôtre. Il me semblait qu'il manquait quelque chose à la divinité, tant qu'il n'existait rien qui pût lui être opposé. Un être qui, comparé à elle, prouva qu'elle est la plus heureuse. Je voulais toutefois que ce fût un mortel, quoique industrieux, intelligent et capable d'apprécier qui valait mieux que lui. Alors, suivant le langage des poètes, je mêlai de la terre et de l'eau, et cette substance molle, je formai des hommes, puis j'appelai Minerve et la priai de mettre la main à mon œuvre. Voilà le grand crime que j'ai commis envers les dieux. Tu vois que... Voilà le grand crime que j'ai commis envers les dieux. Voilà le grand crime que j'ai commis envers les dieux. Tu vois quel tort j'ai pu causer en fabriquant des animaux avec de la boue, jusque-là immobile, a été doué par moi du mouvement. Il paraît que, depuis ce temps, les dieux sont devenus un peu moins dieux, parce qu'il existe sur la terre certains êtres mortels, et voilà pourquoi Jupiter se fâche. Comme si les dieux étaient amoindris par la naissance des hommes, à moins qu'ils ne craignent que ceux-ci ne conspirent contre lui et ne déclarent la guerre aux dieux comme les géants. Mais que vous ayez reçu quelque hommage de moi ou de mes créatures, le contraire, Mercure, est évident, montre-moi que je vous ai fait le plus léger tort, et je me tairai, et j'avouerai que vous avez raison de me traiter ainsi. Au contraire, j'ai été de la plus grande utilité aux dieux, et pour t'en convaincre, tu n'as qu'à jeter les yeux sur la terre, jadis aride et sans beauté, aujourd'hui parée de villes, de campagnes cultivées, sur la mer sillonnée de navires, sur les îles remplies d'habitants, sur les autels, les sacrifices, les temples, les solennités qui se voient de toutes les rues, les places publiques sont pleines de Jupiter. Encore, si j'avais formé les hommes pour moi tout seul, on pourrait me taxer d'avarice. Mais c'est en vue de l'intérêt commun que je vous les ai fabriqués. Que dis-je? On voit partout des temples consacrés à Jupiter, à Apollon et à toi, Mercure. Mais à Prométhée? Pas un. Tu vois, si je ne songe qu'à mes intérêts, si j'ai trahi ou diminué ceux des autres. Songe en outre à ceci, Mercure, qu'un bien, quel qu'il soit, possession ou œuvre d'art que personne ne peut voir ou louer ne saurait être doux et agréable à celui qui le possède. Or, pourquoi parlerais-je ainsi? Pour montrer que si les hommes n'eussent pas été créés, la beauté de l'univers serait demeurée sans témoin et nous autres dieux ne serions riches d'une richesse que personne n'admirerait et qui, par suite, n'aurait pour nous aucune valeur, attendu que nous ne pourrions la comparer à rien d'inférieur. Enfin, nous ne comprendrions pas l'étendue de notre félicité si nous ne voyons aucun être privé de ce bonheur, car la grandeur d'un objet ne se prouve que par la comparaison avec un petit. Et vous, qui deviez me combler d'honneur pour cet acte de bon citoyen, vous me clouez un rocher en récompense de mes bonnes idées. Mais, dis-tu, il y a des méchants parmi les hommes. Ils commettent des adultères, se font la guerre, épousent leurs sœurs, tendent des embûches à leurs pères. N'y a-t-il pas aussi chez nous abondante moisson de vices? Et doit-on pour cela accuser Uranus et la Terre de nous avoir donné l'existence? Tu diras peut-être encore que c'est pour nous une rude affaire que de prendre soin des hommes. Autant vaudrait alors qu'un berger se plaignît d'être obligé de soigner son troupeau s'il lui donne du mal, il lui procure aussi des plaisirs et une occupation qui n'est pas sans agrément. Que ferions-nous si nous n'avions à veiller sur rien? Plongés dans l'oisiveté, nous boirions le nectar, nous nous remplirions d'ambroisie sans rien faire. Mais ce qui me dépite le plus, c'est que, me reprochant d'avoir fait les hommes, et encore plus des femmes, vous ne vous faites pas faute de les aimer, de descendre sur la terre, tantôt changé en taureau, tantôt en satyre ou en cygne, et vous ne dédaignez pas d'en avoir des dieux. Mais il fallait, tu diras peut-être, faire des hommes avec une autre forme, et non pas à notre ressemblance. Et quel autre modèle pouvais-je proposer que celui qui me paraissait le plus beau? Devais-je faire de l'homme un être sans raison, une brute sauvage et grossière? Et comment les hommes auraient-ils offert des sacrifices aux dieux? Comment nous auraient-ils rendu d'autres hommages s'ils n'eussent pas été tels qu'ils sont? Mais vous, sitôt qu'ils vous offrent des hécatombes, vous ne perdez pas un instant, dussiez-vous aller à l'extrémité de l'océan, chez les Éthiopiens irréprochables. Et celui qui vous procure ses honneurs et ses sacrifices, vous l'avez cloué à un rocher. Mais voilà assez au sujet des hommes. Maintenant, si tu veux bien, passons au feu et à ce larcin si amèrement reproché. Et d'abord, au nom des dieux, réponds-moi bien sans hésiter. Avons-nous perdu la moindre partielle de ce feu depuis qu'il est aux mains des hommes? Tu ne saurais répondre. Telle est en effet la nature de cette possession, qu'elle ne peut être diminuée par le partage. Le feu ne s'éteint pas en allumant un autre feu. C'est donc chez vous pure jalousie de ne pas permettre qu'on fasse part d'un bien à ceux qui en ont besoin, quand il n'en résulte pour vous aucun dommage. N'êtes-vous donc pas des dieux, et par conséquent des êtres bons, faiseurs de riches présents, étrangers à toute envie? Et lors même que je vous aurai dérobé tout le feu pour le porter sur la terre, sans vous en rien laisser, je ne vous en aurais pas fait grand tort. Vous n'en avez nul besoin, vous n'avez jamais froid, vous ne faites pas cuire l'ambroisie, et vous pouvez vous passer de lumière artificielle. Les hommes, au contraire, ont tout à fait besoin du feu, surtout pour les sacrifices, pour parfumer les rues de l'odeur des victimes, brûler l'encens et rôtir les cuisses sur les autels. Je vois même que vous ne vous plaisez pas mal à la fumée, et que c'est pour vous un délicieux régal quand cette odeur monte vers le ciel avec la fumée qui s'élève en spirale. Vos reproches sont donc en contradiction complète avec vos goûts. Je m'étonne aussi que vous n'empêchiez pas le soleil de luire sur les hommes, son feu est bien plus divin, bien plus ardent. L'accuserez-vous aussi de vous avoir dérobé votre bien? J'ai dit, pour vous, Mercure et Vulcain, si vous me trouvez quelque chose à reprendre, redresser, accuser, et moi, je me justifierai encore. Mercure. Il n'est pas facile, Prométhée, de lutter avec un si vigoureux sophiste. Cependant, félicite-toi de ce que Jupiter ne t'a pas entendu. Je suis sûr qu'il aurait attaché sur toi 16 vautours pour te déchirer les entrailles, tant tu as mis de violence à l'accuser en paraissant te défendre. Mais je suis étonné qu'étant devin, tu n'aies pas prévu le supplice que tu subis. Prométhée. Je le savais, Mercure, et je sais aussi que je dois être délivré. Avant peu, un Thébain de tes amis viendra ici et tuera à coups de flèche l'aigle dont tu m'annonces l'arrivée. Mercure. Puisse-t-il en être ainsi, Prométhée, Puissais-je te voir délivré, assis à table, avec nous, pourvu seulement que tu ne fasses pas le partage des viandes. Prométhée, sois tranquille, Mercure, je m'asseyrai bien à votre table, et Jupiter me délivrera pour lui, pour avoir procuré un bien grand bonheur. Mercure, lequel? Parle vite. Prométhée, tu connais Tétis, n'est-ce pas, Mercure? Mais il ne faut rien dire. Mieux vaut garder mon secret, afin qu'il soit le prix de la rançon de ma délivrance. Mercure, garde-le donc, Titan, si tu crois ce parti le meilleur. Pour nous, Vulcain, allons-nous-en, voici l'aigle qui arrive. Du courage, Prométhée, je voudrais déjà voir paraître l'archer Thébain, qui doit mettre fin aux cruelles morsures. Fin.